Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde a todas e a todos. 14ª temporada de Passagem de Nível. Um grande obrigado, um grande abraço a todos eles que nos acompanham já há 13 anos a esta parte. Bom, aqui vai a emenda para já. Vamos atualizar no que diz respeito às jornadas de informação franco-portuguesa sobre pensões de reforma. O prazo finalmente foi prolongado até o dia 3 de setembro. Isto trata-se de jornadas que são destinadas aos beneficiários da Segurança Social, com mais de 55 anos que residem em Portugal e que trabalharam em França e em Portugal ou que querem regressar para Portugal. Faremos disso com um representante da Assurance Retraite Île-de-France. E foi lançada uma campanha de solidariedade em França com as populações das ilhas de São Vicente, Saint-Antão e Saint-Nicolas em Cabo Verde, vítimas da tempestade tropical ocorrida no passado dia 11 de agosto. Iremos até Cabo Verde com Lourença Tavares, cofundadora de Acreides, e aqui em Paris vamos ter a Cristina Batista, presidente da Acreides França. E para onde vai Portugal? Uma interrogação do barítono Jorge Mina. Veremos a propósito de incêndios e não só. Três livros, Cinéma e Dissidence, le cinéma portugais pendant la dictature Salazar, L'histoire de l'Afrique lusophone, ou ainda Les poissons viennent de la forêt. Bon, tout ça jusqu'à 14h. Mais déjà, on va reparler de quoi, justement, des journées d'information de retraite franco-portugaise du 7 au 9 octobre. Philippe Bambille, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je sais que vous donnez du votre temps personnel et qu'il est précieux, mais c'est précieux aussi l'information. Alors, déjà une bonne nouvelle. Finalement, le délai qui s'était prévu le 17 août pour s'inscrire a été prolongé jusqu'au 3 septembre.
Alors, on vous a bien entendu, on avait discuté cet été et en effet... comme il nous reste encore quelques places disponibles, j'ai encore même une meilleure nouvelle, on va prolonger jusqu'au 10 septembre. Alors on ne prolongera pas au-delà.
Au 10 septembre.
Oui, ça vient de changer. Oui, très bonne nouvelle. Donc voilà, il reste encore quelques places disponibles. Surtout, profitez-en.
Alors, ces journées, bon, il faut expliquer peut-être qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il y a tout un circuit à faire. Donc, je pense que déjà, bon, commençons par les inscriptions. Bon, on a mis le lien, etc., mais le mieux, c'est d'aller sur l'espace personnel, sur le site www.l'assurance-retraite.fr. Quelles informations sont demandées quand on s'inscrit?
Alors, pour s'inscrire, c'est assez simple. En gros, il nous faut votre identité, il faut qu'on puisse vous contacter, il faut qu'on ait quelques informations, puisqu'évidemment, ce qui est important quand vous allez prendre le rendez-vous, c'est que les dossiers ils vont pouvoir être préparés. Les collègues portugais, les collègues de la retraite complémentaire, et puis nous, l'assurance retraite pour la sécurité sociale, on va préparer le dossier, donc on demande des informations, l'état civil, le numéro de sécurité sociale, tout ça est assez classique. L'inscription, elle se fait sur rendez-vous, il y a 3 journées, du 7 au 9 octobre, et il faut vraiment en profiter pour poser toutes les questions sur sa retraite liée à l'activité en France, sur la retraite liée à l'activité au Portugal, et puis sur le moment où on sera en retraite, qu'on décide de la vivre en France, ou pourquoi pas, si on doit retourner la vivre au Portugal. Donc c'est vraiment un moment privilégié d'échange, les rendez-vous sont évidemment gratuits, et il n'y a aucune mauvaise question, et c'est vraiment le moment, préparez vos questions, pensez-y, et puis en effet, il y a un parcours, une fois que vous êtes sur place avec nous, qui vous permet de rencontrer les différents conseillers et de pouvoir repartir avec toutes les informations nécessaires à la meilleure préparation de la retraite.
Ville, monsieur Vanville, alors si je me rappelle bien tes premières journées, bon, Radio Alpha les a accompagnées du début à la fin. Alors apparemment, on commence par la caisse portugaise de retraite, et quand on arrive, on a finalement toute notre carrière au Portugal.
Exactement. D'abord, on rencontre les conseillers de la caisse portugaise, nos collègues qui viennent. Donc, les dossiers ont été préparés, vous êtes reçus, toute votre carrière est prête. Vous pouvez poser vos questions, possiblement nous signaler à nos collègues ce qui pourrait avoir été oublié, poser vos questions sur les démarches, sur le montant de la future retraite. Donc, ça, c'est une première étape. rencontrer les collègues, les conseillers de la caisse de retraite portugaise. Et puis après, une fois que vous avez fait le point avec nos collègues portugais, vous pourrez rencontrer les conseillers de la retraite française pour la sécurité sociale et pour la retraite complémentaire avec nos collègues de la GIRC-ARRCO. C'est vraiment un endroit où on peut rencontrer tous les acteurs de la retraite français et portugais.
Donc ça veut dire que est-ce que en sortant, on va s'en rendre compte que il manque des cotisations qu'on a faites, parce que des fois il y a des trous dans les carrières. Donc c'est une bonne occasion de voir aussi jusqu'à quel point il faut aller chercher des fiches de paie, des certificats de travail et tout. Alors
il peut arriver qu'il ne manque rien, mais c'est vrai que assez souvent, il peut y avoir des petites choses qui manquent. C'est pas un problème, puisque l'idée, c'est de se dire, on s'y prend à l'avance. Idéalement, c'est 5-6 ans avant le départ à la retraite. Et donc, en effet, si jamais il manquait des choses, les conseillers qui sont là vont vous indiquer quels seront les documents à fournir pour corriger ces oublis, ces erreurs, pour que le moment venu, il n'y ait plus aucun souci. Le passage à la retraite, s'il a été bien préparé avant, et parfois les carrières sont compliquées quand on a travaillé en France, au Portugal, qu'on a eu beaucoup d'employeurs, c'est très important de le préparer bien en avance, et quand ça a été bien préparé et qu'on l'a anticipé, le passage à la retraite, il est plutôt simple.
Alors, M. Benville, je me souviens que quand on a parlé de ces deuxièmes journées d'information de retraite franco-portugaise, justement, j'avais fait une remarque, c'est une auditrice qui nous a dit que son dossier est traîné depuis un an. Alors, on sait très bien que les fonctionnaires de la CNAV, ils ont beaucoup, beaucoup de travail à faire, pas forcément le nombre de fonctionnaires nécessaire, mais c'est-à-dire que par rapport à ce retard qui a existé dans l'acceptation des dossiers, après pour payer les pensions de retraite, etc. Est-ce que ça a avancé un petit peu dans le bon sens, en sachant que les fonctionnaires, ils font ce qu'ils peuvent faire, hein?
Alors, tous les efforts ont bien été consentis par nos collaborateurs pour faire en sorte qu'en effet, tous les dossiers soient payés dans les temps. Tout le monde a gagné à ce que tout soit préparé en avance pour que tout soit facilité. Malheureusement, il peut arriver parfois, rarement, mais ça arrive que quelques dossiers traînent de trop. Ce qu'on fait avec ces journées franco-portugaises notamment, c'est de se dire on met tous les atouts de notre côté pour éviter le plus possible que le passage à la retraite soit compliqué. Les dossiers peuvent être en retard parfois parce qu'on a beaucoup de choses à corriger. Si on s'y prend à la dernière minute, ça complique les démarches. Donc on essaye de mettre toutes les chances de notre côté. Les services sont gratuits, toutes les questions peuvent être posées. Et les assurés qui sont les futurs retraités et les collaborateurs de la caisse de retraite, tout le monde a intérêt à ce que tout soit bien préparé avant, qu'il n'y ait pas de retard et que tout se passe bien. Donc c'est regrettable pour cette auditrice, ça arrive malheureusement. Quand c'est comme ça, il faut vraiment se manifester pour qu'on puisse corriger la situation. Mais l'idée là de ces journées, c'est je me prépare à l'avance, comme ça je réussis à bien préparer ma retraite, et quand je décide de prendre ma retraite à 62, à 65, à 70 ans, je m'évite tous les problèmes qui sont liés à tous ces trous de carrière qui peuvent être parfois un peu compliqués à corriger.
Alors, Monsieur Benville, il y a quelque chose d'extraordinaire dans mon sens du terme avec l'assurance retraite Île-de-France. C'est quand on a un problème, on peut être reçu de vive voix, savoir prendre un rendez-vous, expliquer son cas, etc., etc. Ça, tout ne passe pas par Internet, et ça, c'est une plus-value énorme.
Alors ça, c'est un vrai plus. C'est vrai que le rendez-vous, notamment pour des carrières parfois un peu plus compliquées, un peu plus complexes, notamment, je le disais, quand on a eu beaucoup d'employeurs, c'est vrai que ça peut valoir le coup de prendre rendez-vous, de s'y prendre en avance. Moi, je dirais que 5 ans avant, c'est très bien, pour justement bien tout remettre à plat. Ça peut être un peu long, on doit rechercher des bulletins de salaire, nous, on doit faire des recherches auprès des employeurs, mais l'idée, c'est qu'on puisse rencontrer les personnes. Alors, il y a des personnes avec qui on peut faire ça tout à distance. Et puis, en effet, il y a des personnes avec qui c'est plus simple de le faire en rendez-vous. Moi, dans une autre vie, je l'ai fait et j'étais ravi de pouvoir échanger. Et puis, quand c'est comme ça, il faut surtout pas hésiter à poser toutes les questions. La retraite, c'est compliqué, c'est notre métier. Donc, nous, on est là pour aider les personnes qui la préparent, pour faire en sorte qu'elles partent au meilleur moment avec le montant qui leur est dû.
Monsieur Benville, je vous remercie. Donc déjà une information. Donc on peut s'inscrire jusqu'au 10 septembre.
10 septembre, oui.
Bon, donc on gagne du temps, ça c'est extraordinaire. Donc les journées sont du 7 au 9 octobre 2025, donc pendant 3 jours. Et justement, alors on sait très bien qu'il y a beaucoup de monde qui se demande, bon, je passe l'expression, hein, vous m'excusez, à quelle sauce je vais être à manger quand je pars à la retraite. Étant donné, bon, les changements successifs qu'il y a eu par rapport, il y a eu plein de réformes là, des systèmes de retraite. Donc, pour vous, fonctionnaires, il faut s'adapter tout le temps. C'est pas évident parfois.
Ça, c'est notre métier. Donc, c'est vrai que des réformes, il y en a eu beaucoup. Depuis 2003, il y en a eu énormément. C'est notre métier. On sait faire, on sait s'adapter, on sait changer nos outils informatiques. Notre mission principale, c'est d'aider au mieux les personnes qui préparent leur retraite et faire en sorte qu'elles touchent le montant qui leur est dû en fonction de leur cotisation. Donc, la complexité du système et des réformes, c'est pour les conseillers de l'assurance retraite. La simplification des démarches, c'est pour les futurs retraités. Et notamment à l'occasion de ces journées, les personnes qui ont à un moment ou à un autre travaillé au Portugal ou qui ont le projet d'aller s'installer au Portugal pour passer leur retraite.
Alors, il y en a certains qui ont une carrière un peu éclatée, c'est le cas de dire. Ils ont travaillé en Suisse. En Suisse, c'est un cas à part, mais qui ont travaillé dans d'autres pays européens. Donc, quand on s'inscrit, je pense qu'il faut renseigner, donner le maximum de formation pour que les techniciens de la CNAD, l'assurance retraite Île-de-France, mais également du Portugal, puissent faire le nécessaire. Monsieur Philippe Bainville, je vous remercie une fois de plus, parce que je sais que c'est dimanche, etc. Donc, vous avez pris sur votre temps personnel. Je vous remercie et je pense que les futurs retraités d'origine portugaise et tous les autres vous remercient aussi de votre travail.
C'est un plaisir. En tout cas, à très bientôt.
Merci.
Très bon dimanche.
Merci de même. E agora vamos mudar completamente de tema, ou seja, vamos falar de Cabo Verde, concretamente de três ilhas, São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Pois bem, ao que parece, aqui bom, há nomes que bom, eu não vou dizer agora, as tempestades tropicais têm nomes, às vezes, ditos românticos, mas a realidade para a população, essa é dramática, nem mais nem menos. Foi o que aconteceu nestas ilhas no passado dia 11 de agosto, e precisamente em Cabo Verde. E a Cabo Verde, vamos então com Lourença Tavares, que é cofundadora da Acredito, Associação Crianças Esfervecidas em Cabo Verde. Lourença Tavares, muito boa tarde, bom dia para si.
Bom dia,
Zúria,
obrigada pela oportunidade.
Obrigado a si e aliás, já temos a Cristina Batista em linha. Cristina Batista, boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado. Presidente da Acredites, França, enfin défavorisé. Mas vamos começar precisamente por aquilo que se passou no dia 11 de agosto, e aí penso que a Lourença Tavares pode nos explicar o que é que se passou nesse dia em Três Ilhas de Cabo Verde.
Portanto, todos acompanharam a chuva. A forte chuva que solou o país, né? E São Vicente foi uma das ilhas que muito mais sofreu com essa chuva torrencial. E como todos os cabo-verdianos, e como toda a gente cabo-verdiana também tem esse dom de solidariedade, e tendo uma diáspora muito grande pelo mundo, a França, a nossa presidente da Acredites França, a Cristina, com outras associações, tiveram essa iniciativa de ser solidários, porque é preciso, porque famílias sofreram e muito, perderam, tivemos uma mãe que perdeu os dois filhos, portanto, é muita coisa triste, Arthur, muita tristeza, e eu acho que a Cristina poderá falar muito melhor do que eu sobre o que a Acredites França está a preparar.
Sim, mas eu volto um pouco a cá ver, porque houve vítimas mortais, oficialmente sete vítimas mortais, acho eu, as inundações, mas houve estragos enormes, há pessoas que perderam tudo, mas completamente tudo, há que ver, bom, as fotografias, ruas inundadas, lama por todo lado, casas destruídas, de maneira que, bom, eu caso para dizer, bom, essas pessoas estavam perdidas, houve imediatamente uma ajuda, bom, porque se conhecemos a solidariedade no seio do povo cabo-verdiano, de maneira que havia que resolver coisas imediatas, né, logo a seguir esta tempestade tropical.
Sim, 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 o governo assumiu, logo de seguida criou-se o gabinete de crise, a Cruz Vermelha de Cabo Verde, como uma organização que presta socorro, gestão, portanto a Polícia Nacional, os militares, toda a gente, as associações comunitárias de base, toda a gente, Arthur, toda a gente envolveu-se na resolução desse problema, dessa catástrofe, em que muitas famílias, se não estou em erro, 200 e tal famílias, perderam tudo, perderam, porque também habitavam muito mal, é uma zona de muita pobreza, de moradias feita de bidões, portanto, prontos, a Câmara Municipal de São Vicente está no terreno, as câmaras municipais de Cabo Verde também todos organizaram-se e enviaram doações para responder às necessidades dessas famílias. E o governo, neste momento, já está com lista de famílias que irão receber habitações sociais para poderem ter a continuidade de uma vida com mais dignidade.
Uhum. Ora, Cristina Batista, dois terços da população cabo-verdiana emigrou. É a miséria, eu quero dizer, é a fome, era necessário comer, era necessário educar as crianças e existe essa solidariedade. Ora, há queridas, a França, enfant défavorisé, ora, a Cristina Batista tem particularidade de ser presidente de outra associação, vale a pena falar nela, se fizer favor, rapidamente.
Sim, fui nomeada no ano passado presidente da Acrides França, antigamente era Acrides Paris, mas com o desejo de abranger um vasto campo de ação, resolvemos com a Acrides Cabo Verde de mudar o nome da associação. Antes de ser a presidente da Acrides, de ser nomeada, também sou presidente da associação L'Espoir Fait Vivre Toujours, que significa a esperança é que faz sempre viver. É uma associação também que trabalha sobretudo com mulheres, nas questões de violências feitas às mulheres, nas questões de igualdade homem e mulher e também nas questões de igualdade de oportunidades. Além de trabalhar também em torno da saúde mental e do bem-estar da mulher. Com o facto de ter sido nomeada presidente da Acrides França, vai completar porque a família, o núcleo da família é composto pelos pais, pelas crianças, primeiro o núcleo e depois pelos outros membros da família que vão incluir, vão estar na fazer parte da família e então é desta forma que temos estado a trabalhar. Como falou e bem da questão de solidariedade cabo-verdiana, nós também trabalhamos em solidariedade, em parceria entre as associações, temos missões diferentes, mas missões que se aproximam umas das outras e que acabam por ser complementares. E daí o sentido de trabalhar nesta questão de ajudar o povo cabo-verdiano, nomeadamente das ilhas de São Vicente, São Nicolau e Santo Antão, em parceria, ou seja, através de um conjunto de associações, entre outras pessoas mais.
Ora, a Cristina Batista, para já uma coisa, chega de roupa, não é necessário mais nem roupa, nem vestuário, nem nada, nada que isso. Hoje, precisamente, talvez resumidamente, a lista dos produtos que vocês estão a recolher para enviar depois para os sinistrados nas três ilhas cabo-verdianas.
Sim. Como todos sabemos, quando acontece algo desta natureza, existe uma emergência de primeira necessidade. E então nestas primeiras necessidades da população que foi afetada pela tempestade, nomeadamente em termos de alimentação, em termos de tudo o que é produtos de higiene para a população, mas também para as crianças mais vulneráveis, neste caso os bebés, então tudo o que é leite, fraldas, comida para as crianças, para os bebês. Uma das coisas também que temos estado a solicitar são pastilhas para filtrar a água, para que a água possa ser própria a consumo próprio. Vista a situação que aconteceu, tudo ficou exposto em termos de saneamento básico de várias zonas. Não. E então existe também esta necessidade. Porquê? Porque, felizmente, a Cabo Verde Airlines propôs-se a fazer uma parceria e colaborar com as associações cabo-verdianas aqui em França, e então permitiu o envio, através de voos diretamente para São Vicente, de malas que seriam transportadas também pelos passageiros.
A Cristina Batista, peço desculpa, a ideia é, há uma mala vazia e as pessoas enchem a mala e que depois é transportada por passageiros que vão a Cabo Verde, é bem isso?
Sim, então as associações que estão a trabalhar aqui no terreno, neste momento também aproveito desde já para lançar o apelo, se conhecerem pessoas que estão no voo que parte esta segunda-feira para São Vicente...
Amanhã.
Exatamente, não hesitem a contactar ainda hoje, se existir essa possibilidade, porque a Cabo Verde Airlines permite então que pelo menos cada pessoa tenha mais duas malas de 23 quilos cada, e onde nós poderemos então enviar neste primeiro tempo estes produtos de primeira necessidade.
Ora, a Cristina Batista, algo que é importante, bom, há uma das associações cabo-verdianas na diáspora que o fazem, é relativamente às crianças, e estou a pensar a nível escolar, porque é necessário tudo para que as crianças possam continuar a estudar.
Exatamente. Nós temos estado em contacto também com a senhora dona Arsénia Neves, que é diretora de um agrupamento escolar em São Vicente, e então ela manifestou junto de nós esta preocupação, visto que a escola, o período escolar vai se iniciar a 15 de setembro, e em tempos normais existem muitas famílias com dificuldades financeiras para poder dar tudo o que é necessário a uma criança para ter uma escolaridade, uma boa escolaridade, mesmo sabendo que existe um apoio do governo, da Câmara Municipal, que atribui esta ajuda financeira a partir de outubro, mas neste momento existe também esta necessidade e é uma das coisas que temos estado a solicitar também junto do público, são donativos de materiais escolares para que as crianças possam não sentir não sentir muito este transtorno que aconteceu na vida cotidiana de todos eles.
Sim, com efeito é um traumatismo. Ora, relativamente ao material escolar, eu insisto sobre isso porque é muito importante. Aliás, o trabalho que é feito, principalmente em Cabo Verde, pela Lourenço Tavares, que é a Associação de Crianças Desfavorecidas também. Bom, estamos a falar de algo que infelizmente é uma realidade, não só em Cabo Verde, em Portugal também existe isso, e em França e por todo lado. Concretamente, trata-se de cadernos, de canetas, lápis, e aí contando igualmente os lápis de cores, a cores, borrachas, evidentemente, para lápis, feltros, e mesmo mochilas, de maneira que, bom, é tudo o que é necessário, porque a criança no mês de setembro, estamos no mês de setembro, quando reintegrar a escola, se não foi destruída, pelo menos, quer dizer, sente-se que não está abandonada, isso é importante.
Exatamente, porque em Cabo Verde, contrariamente aqui em França, para além de todo o material escolar, as crianças necessitam de manuais escolares e também necessitam da farda, que que usam no dia-a-dia. E tudo isto representa custos acrescidos à escolaridade. Uma das coisas que aconteceu também em São Vicente, nomeadamente, foi a destruição de certas bibliotecas que vendiam os manuais escolares. Então existe esta apreensão em relação ao retorno à escola, com esta falta de não só de material escolar, mas também dos manuais que permitem os estudos.
Assim, de maneira que é capaz de haver, infelizmente, um compasso de espera para os alunos nas escolas. Lourença Tavares, finalmente, esta mobilização da diáspora cabo-verdiana por esse mundo fora está a chegar, já é uma realidade, vocês já veem as coisas a chegar e a ser distribuídas aí, nomeadamente na Ilha de São Vicente?
Sim, já estão a chegar e ainda ontem eu estava a ver no telejornal uma equipa de médicos portugueses, cabo-verdianos que vivem em Portugal, que também foram para dar assistência, portanto dos Estados Unidos da América, de toda a Europa, já estão a chegar, já estão a ser distribuídas as famílias, já estão a receber. Como eu disse, as famílias foram acolhidas, o Ministério da Educação disponibilizou uma escola onde elas foram colocadas e já estão a ser orientadas para terem as suas casas próprias e com benefícios que vai, na verdade, ajudar. Uhum. Portanto, é o cabo-verdiano, como nós dissemos, o juntamão de todos, e nós agradecemos a todos que estão com este gesto e com este engajamento. Uhum.
Cristina Batista, eu vou voltar à lista, se não se importa, porque fala-se de produtos de higiene íntima. E é algo que é extraordinário, que muitas vezes, e vimos isto aqui também, quando há apelo para que as pessoas ajudem pessoas que vivem com dificuldades, esquece-se muito a higiene íntima da mulher. Ora, eu acho que isso é bastante importante, porque as pessoas têm pudor de falar nisso. Ah, cuidado, o que é daqui que você está a falar?
Não, exatamente. De facto, a outra associação da qual eu sou presidente, nós a cada ano temos um evento que nós fazemos uma campanha contra a precariedade menstrual. E então recolhemos, é um evento gratuito, mas a entrada normalmente pedimos a cada pessoa que traga produtos de higiene íntima. Pensos, tampões e tudo o resto. E então, esta é uma das coisas que está essencialmente na lista de necessidades que nós estabelecemos e que estamos a pedir junto da diáspora, e não só, deixa-me precisar, que são os cabo-verdianos, mas não só. Existem muitas outras nacionalidades aqui em França que estão solidárias a esta situação e que vieram também fazer donativos junto da associação.
Ora, quando se fala de fazer o donativo, bom, há que saber onde é que vamos. Aparentemente há um certo número de associações, bom, que vocês tentam regrupar toda a gente para que haja um cordão único, se posso utilizar a expressão, de maneira que, bom, conhecemos as redes sociais, mas como é que uma pessoa faz isso? Será que isso está centralizado por localidades? Bom, queria relembrar que temos ouvintes atualmente que nos estão a seguir em Lille, em Lyon, em Estrasburgo, em Mónaco, na Côte d'Azur, quando digo Côte d'Azur, Nice, Cannes, e vamos até Marselha, de maneira que isso é, bom, a nível nacional há uma centralização destes dons, precisamente, ou não, Cristina?
A centralização não existe concretamente, porque como estamos espalhados pela França inteira, então existem vários pontos onde as pessoas podem entregar os seus donativos. O que facilita com as redes sociais é que existe muita informação e existe muita partilha da informação, então penso que facilmente chegar-se-á a um ponto de recolha junto de onde a pessoa mora. Está a perceber? Nós, neste caso, nós temos estado no departamento de Essonne, 91, mais precisamente na vila de Brétigny-sur-Orge, onde a Câmara Municipal nos colocou à disposição um local onde nós temos estado a fazer a recolha e vamos continuar a fazer esta recolha até o final de outubro, mais ou menos. E, além disso, a Câmara Municipal de Brétigny, onde é o domicílio, não sei como é que se diz em português, mas onde está sediada a Associação Acrides França e a outra associação também, desse Barça Vivo Toujours, e eles colocaram à nossa disposição uma grande sala para podermos fazer, como é que se diz, colocar todos os cartões que nós temos estado a preparar, porque nós recebemos os dons, mas tudo atrás disso há todo um outro trabalho de triagem para verificar se as coisas estão em, boas condições, sobretudo as roupas, para separar as coisas por categorias e para numerar e identificar as caixas, de forma a que a gente possa então enviar através de um contentor.
É isso, é toda uma logística à volta, é extraordinária essa mobilização. Lourença Tavares, muito obrigado. Eu sei que bom, temos sensivelmente 3 horas de diferença, de fuso horário, relativamente a Cabo Verde, de maneira que o que é que pode dizer à diáspora cabo-verdiana que está aqui em Paris, relativamente a esta solidariedade, hoje mais do que nunca?
Eu só digo muito, muito, muito obrigada. Agradeço sempre, agradeço a todo momento e dizer que este gesto de solidariedade do povo cabo-verdiano em França, da Associação Acrites França, Espoir Fait Vivre, mostra-nos o quão nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, não devemos ficar indiferente e a nossa associação está a demonstrar isso e as pessoas que estão a apoiar estão a demonstrar isso. Portanto, juntos é que na verdade somos mais fortes e juntos é que poderemos fazer a diferença. Eu só agradeço a todos.
Eu agradeço também a Lourença Tavares. Cristina Batista, resumidamente, um apelo à solidariedade, mas em crioulo, se fizer favor.
Não, vamos lá então. Não sei de Manu, tudo é um só. Cabo Verdeanos, nós é tudo que é um só. E então é só conosco que não pôde conta em primeiro lugar. Por isso, não pedi a nós, se eles puderem fazer, nós dom, fazer, nós parte, de nós fazer aquele donativo, em termos de, sobretudo agora, de material de escolar para meninos que já também começa a escola, produtos de higiene, roupas, já nunca me estimasse, e para onde não recebi tchau, roupa, já nunca cria tudo, mas material escolar para meninos pode começar a escola, e se tiver possibilidade de fazer donativo financeiro, e também será bem-vindo, para moita permite de famílias cumpra que é farda para meninos, para se pode ir para a escola.
Cristina Batista, Lourença Tavares, obrigadíssimo e solidariedade com a população das 3 Ilhas Cabo-Verdianas. Obrigadíssimo.
Obrigada, Arthur. Obrigada. Obrigada, Arthur. Um abraço grande. Muito obrigada.
Obrigado, Will. E voltamos ao direto Passagem de Nível neste domingo, dia 31 de agosto. Emissão com redifusão na noite, terça para quarta-feira, sem esquecer o podcast. Incêndios. Um drama pessoal levou a que o barítono Jorge Miné fizesse um texto extenso nas redes sociais. Jorge Miné publicou um extenso texto nas redes sociais, uma pergunta: para onde vai Portugal? Não é por acaso que houve alguém bem preciso que fez essa pergunta e que levou o Jorge Miné a refletir em muita, muita coisa, não foi?
Evidentemente. Paralelamente a esse texto, vivi um momento difícil na minha vida, a partida do meu pai, que na véspera exatamente de ter ido para o hospital, já num estado de grande fragilidade, com a lucidez que o acompanhou até ao fim, e por poucas semanas teria cumprido 100 anos, o pai perguntou exatamente isso: para onde vai Portugal? Ao ver as imagens terríveis dos fogos que avassalaram o nosso território e não só na Europa do Sul durante este verão. E isso fez-me refletir sobre o porquê que constantemente estamos a chamar a resiliência de um povo mártir, que é o povo português. Um interior completamente abandonado, um centralismo lisboeta constante, uma corrupção endémica no país, uma descoordenação total, bombeiros ainda não profissionalizados e que recebem salários de miséria e que todos os anos estão a dar a vida por fogos que para mim não são naturais, como se diz frequentemente no discurso político. Não são as ondas de calor, nem o vento. É um fogo interior muito mais endémico e muito mais grave. Porque desde 2003 e mesmo antes, Portugal tem sido o palco de fogos em todos os verões, e nomeadamente no célebre verão de 2017, com, suponho, 66 vidas, mártires, e mais de 200 pessoas que ficaram sem nada. Este ano, 8 anos depois, assistimos exatamente à mesma coisa. Naquela altura, não sei se recorda que houve aquele problema de comunicações. Hoje vemos que há um problema de coordenação, que é um problema endémico que, a meu ver, na minha reflexão, humilde, mas profundamente enraizada neste território que me viu nascer e pelo qual eu tenho um afeto e uma ternura muito especial, de ver, na verdade, que nada foi feito, ou quase nada foi feito, e que continuamos nestes pequenos poderes que, para mim, vêm dessa teia política do salazarismo, que foi extremamente centralizado em Lisboa, mas que servia de todos estes pequenos poderes que hoje podem ser caciques ou não, mas que são o resultado, a meu ver, de todas estas séries de comissões, de coordenações inexistentes, de conselheiros, de consultores, que vieram fazer com que, na verdade, a resposta à tragédia tenha sido tão ineficaz.
Mas, Jorge Miné, se me permita, porque há os incêndios, mas os incêndios, como acaba de dizer, são reflexo de uma situação. Mas podemos alargar isso à questão da saúde. Escreveu, por exemplo, as urgências hospitalares se encerram. Exatamente, por falta de médicos, condições mínimas, bebês nascem na estrada. Exato. O problema da educação.
E ver que há crianças, por exemplo, que há bebês que nascem nas ambulâncias, ou mesmo na rua, neste verão, houve também essas tragédias. E que, no fundo, continuamos urgências fechadas, falta de médicos. Portanto, isto quer dizer que, na política, com um grande P, há algo que falhou. E, no fundo, hoje, Portugal está a viver, e sobretudo o povo português, que é um povo de uma nobreza, de uma solidariedade, que pagou a Troika, que pagou os bancos falidos, que continua a pagar as políticas que foram revertidas naturalmente com os fundos europeus, e que, no fundo, esse 1986, e sobretudo para a minha geração, foi uma abertura absolutamente fantástica. E, de repente, todos esses dinheiros que chegaram da União Europeia foram transformados em quê? Em conhecimento? Não. Em organização do Estado? Não. Em betão. Em betão, em negócio fácil. E isso, evidentemente, deixou-nos numa situação de fragilidade que hoje, ano após ano, se manifesta de forma absolutamente evidente nesta série terrível e trágica de incêndios, nomeadamente no interior, que foi completamente abandonado. Completamente abandonado. Veja, por exemplo, na rede de comboios, a quantidade de comboios suprimidos. Quando sabemos hoje que, ecologicamente falando, o comboio é uma das soluções mais importantes como luta até para o câmbio climático, não é? Portanto, nós acho que houve uma falta, e não estou a culpar nenhum governo em particular, estou a culpar um Estado que não conseguiu ultrapassar as misérias do que foi o Estado Novo. o que foi a forma como o Salazar conseguiu estar no poder durante décadas, graças a quê? Graças a uma corrupção evidente. E digam hoje que o Salazar foi um grande estadista e que nunca ganhou dinheiro pessoalmente, mas deixou uma traça muito mais importante, que foi a dos pequenos poderes e da burocracia, que continua a ser, e eu posso lhe dizer, neste momento é uma das minhas grandes lutas, infelizmente, pelo falecimento do pai, mas é a quantidade de burocracia que este país perpetua, não é? E isto, para mim, é gravíssimo. E tornou-se, no fundo, refém de interesses curtos, sem visão, de poderes difusos e incapazes de se coordenarem, que é o facto do que se passou este verão com os incêndios. Quando de repente há um incêndio no norte de Portugal, em que os bombeiros poderiam vir da região aqui do Porto e de outras regiões, e que de repente vêm de Évora ou vêm do sul do país. Quer dizer, isto é uma falta de coordenação evidente. E nós não podemos dizer, como a língua de pau, a nota boa habitual dos políticos, que é a resiliência, e que isto é uma perversidade da natureza. Não, a natureza não é culpada. Quando um governo, nos anos 90, e o ministro da Agricultura faz uma monocultura de eucaliptos e de pinhais na floresta portuguesa, isso quer dizer que é combustível. Isto é um combustível evidente para incêndios. Portanto, isto é uma falta de visão, mas que não é só portuguesa, infelizmente.
Jorge Miné, para terminar, se me permite, lançou um apelo a todos, cidadãos, artistas, professores, profissionais de saúde, políticos de boa vontade, lançou esse apelo e afirma: não é tarde, mas é urgente.
É mais que urgente. Até quando suportaremos este ciclo de fogo e corrupção? Até quando aceitaremos promessas vazias? Até quando sacrificamos o interior, as aldeias, o futuro? A revolução que foi feita em 1974 e que foi absolutamente fundamental porque instalou uma democracia em Portugal e que hoje, no interior dessa democracia, é posta em causa por discursos xenófobos, racistas, por uma recuperação do que foi esse Estado Novo, infelizmente. É agora uma revolução de consciência cívica que é necessária em 2025. É uma revolução exatamente do que estava a dizer. Portugal precisa de coragem para romper com a mediocridade e para dizer basta à política de fogo, para devolver dignidade no interior. Senão, o que nós muitas vezes chamamos este país à beira-mar plantado, passa a ser este país à beira-mar ardido.
Jorge Miné, muito obrigado, e é o caso de dizer, o combate continua.
Exatamente.
Porque os outros se mascaram e tu não, porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão, porque os outros têm medo, mas tu não, tu não. La 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 la. São os túmulos calhados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se calam, mas tu não. Tu não. La 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 la. La 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 la. La 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 la. e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Tu não. Lará, lará, lará. Abrigos, e tu vais de mãos dadas com os primos. Porque os outros calculam, mas tu não. Porque os outros calculam, mas tu não. Tu não. Tu não. É para o Zeca agora.
Francisco Canhais com o poema Porca de Sofia de Mel Brainer.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível, neste domingo, dia 31 de agosto. Um livro, Cinema e Dissidence, Le Ciné Club Portugais pendant la Dictature de Salazar, publicado por Presse Universitaire de Paris, Nanterre. Este livro tem origem quando uma investigadora vai à procura de um certo número de documentos nos arquivos e finalmente encontra um tema diferente. Foi o que aconteceu com Eurydice da Silva.
C'est vrai que ça a été vraiment une découverte pour moi de trouver ces documents sur les ciné-clubs. Et en fait, au départ, je ne cherchais pas du tout ça. C'est ce qui arrive souvent quand on fait de la recherche et qu'on parle pour chercher quelque chose et puis on trouve quelque chose d'autre. Et donc, j'étais en doctorat de cinéma au département de portugais de l'Université de Paris-Nanterre. Et je travaillais sur le cinéma portugais et la censure au cinéma pendant l'État nouveau. Et donc, pour faire ce travail de recherche, je suis allée aux archives nationales de la Tour du Tombe, à Lisbonne, au secrétariat national de la propagande ou de l'information, pour trouver des scénarios censurés, pour trouver des traces de censure au cinéma. Et dans ces documents-là, j'ai trouvé, en fait, plusieurs boîtes conservées par l'État. Et c'était des boîtes, surtout les ciné-clubs portugais, donc des années 40 jusqu'aux années 68. Et donc c'est là que j'ai vu qu'ils avaient gardé des archives sur tous les ciné-clubs pour toutes les années. Et je me suis dit, bon ben voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant et je veux pas le développer tout de suite, donc je le garde pour plus tard. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée parce que j'ai vu tout de suite en fait qu'ils avaient gardé en fait des informations de la PIDE, beaucoup de choses sur les membres des ciné-clubs. Et ça, c'était tout à fait une découverte inattendue pour moi.
Vous écrivez, bon, dans l'introduction, hein, bon, il s'agit d'une première esquisse d'une histoire des ciné-clubs portugais encore jamais réalisée à ce jour. Mais ça n'empêche que vous avez déterré, je passe l'expression, un certain nombre de documents, et pas seulement, parce que le début, sauf erreur de ma part, de la naissance ou de la création des ciné-clubs au Portugal, ça date des années 40. Mais il va falloir attendre, disons, je ne sais pas, c'est les années 50, pour que le gouvernement de Salazar se rendre compte que finalement les ciné-clubs c'était un espace de liberté et de résistance. Donc quand on ne peut pas les tuer, bon, on les récupère. C'est ça qu'a essayé de faire le régime fasciste, de récupérer ces ciné-clubs ou pas?
Oui, c'est ça. C'est en fait dans les années 40, il y a eu l'émergence de plusieurs clubs de cinéma inspirés par le modèle français. C'est inspiré de ce qui se passait en France, la création des ciné-clubs en France. Et très vite, ils se sont multipliés sur tout le territoire portugais. Et c'était des rassemblements qui n'étaient pas du tout régularisés et qui n'étaient pas supervisés. Et puis, comme vous le savez, à l'époque, voilà, les rassemblements sans autorisation n'étaient pas
autorisés.
Donc, assez rapidement, en fait, bon, ça a mis quand même 10 ans pour que l'État s'intéresse, il reconnaisse un danger potentiel d'insurrection politique. Mais c'est ce qui a fini par se passer. Donc ensuite, ils ont implémenté une législation qui a fait que les ciné-clubs devaient rendre des comptes et devaient être sous la coupe d'un organisme d'État. Ce qui était finalement aussi, ça avait des avantages pour eux parce que du coup, l'État leur a prêté aussi des films de la Cinémathèque portugaise.
Et de l'argent aussi, ils ont financé en partie.
Ils ont financé, bien sûr, oui, donc un soutien financier important, et qui était en fait essentiel pour la survie des ciné-clubs. Mais parallèlement, ça voulait dire aussi qu'il y avait un contrôle plus accru à la fois de la programmation, des textes qui étaient lus pendant la présentation des films. Donc voilà, c'était... Il y avait ces deux...
Rodis de Silva, vous donnez un certain nombre d'exemples. Bon, on va partir sur un concrètement, c'est le néoréalisme, surtout des films italiens. Et c'était très important parce que les ciné-clubs, justement, ils avaient une modernité qui mettait en question ce qu'on appelle l'imaginaire national fasciste, n'est-ce pas? Donc ça pourrait mettre, bon, peut-être en danger le régime, et le régime considérait que le néoréalisme était subversif.
Oui, tout à fait, oui. En fait, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ce réseau-là se développe en parallèle du cinéma national et du réseau commercial de distribution, où en fait la censure intervenait à toutes les étapes à la fois de production des films, sur les scénarios, sur les films une fois montés, mais aussi sur les films qui étaient importés de l'étranger, essentiellement les films italiens avec un réalisme social marqué, les films russes étaient interdits, donc il y avait toute une série de types de cinéma et de thématiques qui étaient soit interdites, soit extrêmement contrôlées, et le néo-réalisme italien en faisait partie, donc... Très rapidement aussi dans les ciné-clubs, ça c'était des films qui étaient limités, leur importation était limitée ou interdite.
Alors, chose étonnante, bon, on ne s'étonne pas de la façon comment agissait Lapide, parce qu'il y avait des gens, des informeurs Lapide, qui assistaient aux projections. Parce que souvent, les projections étaient suivies par des débats, etc., etc. Donc, c'est incroyable parce que vous avez trouvé des rapports sur cette question-là, je crois.
Dans les archives, j'ai pas trouvé de traces de présence en fait d'agents de Lapide dans les projections. Par contre, ils sont intervenus à d'autres moments et ça, on retrouve les traces dans les archives. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une élection de nouveaux membres, tous les ans, l'association, il y avait une élection de nouveaux membres et le SNI, donc le Secrétariat National de l'Information, demandait localement, en fait, dans toutes les régions, si les personnes élues avaient un casier judiciaire, avaient été interpellés par Lapide, s'ils avaient signé la liste du Parti démocratique, enfin, ils étaient vraiment contrôlés. Et donc, s'ils faisaient partie, s'ils étaient considérés comme politiquement subversifs, alors ils pouvaient être bénis de leur fonction de la direction des ciné-clubs, et sans raison particulière. C'est-à-dire que les personnes du ciné-club ne savaient pas forcément pourquoi ils avaient été bénis de leur fonction, mais dans les archives, on retrouve que en effet, ils étaient considérés comme suspects, comme communistes, comme ayant une vie irrégulière, enfin toute une série de critères qu'ils avaient. Donc là, on a la trace d'un contrôle policier qui était effectué par l'État, et il y avait également des contrôles de Lapide, dans les quartiers généraux des ciné-clubs, où il y avait des bibliothèques avec certains livres, donc pour vérifier à la fois la correspondance que les ciné-clubs échangeaient entre eux, pour voir s'ils communiquaient entre eux, qu'est-ce qui était dit, s'ils critiquaient l'État, ou encore pour contrôler tout simplement les livres qu'ils lisaient.
Vous avez parlé de contrôle de l'État, que c'est très important. Au moment donné, surtout c'est un monsieur qui s'appelle Judith de Coste, parce que c'était lui qui dirigeait la troisième répartition SNI, Service National d'Information. Justement, c'était autour des statuts. Parce qu'ils ont essayé d'imposer un genre de statut type pour tout le monde, et là, il y a eu une révolte énorme, et ça du nord au sud du Portugal.
Oui, c'est ça, en fait. C'était une manière de réglementer le fonctionnement des ciné-clubs, mais c'était surtout une manière de placer cet organisme d'État au centre de tout un dispositif. Donc, en fait, les ciné-clubs ne pouvaient pas agir sans l'accord de l'organisme d'État. Ils devaient toujours passer par le contrôle de l'État, en fait, par cet organisme-là, pour communiquer, pour élire des membres, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas aller à l'encontre de ça. Et s'ils agissaient en dehors de ce contrôle-là, alors ils étaient de toute façon considérés comme illégaux et ils pouvaient être dissous. Donc c'était une sorte de contrôle par l'inclusion. C'est comme ça que l'État a fait pour contrôler ce mouvement sur lequel au départ il n'avait pas la main mise. C'est vraiment un contrôle par l'inclusion. Et ça, c'est quelque chose que l'État faisait également dans d'autres domaines
Oui, la chanson, la littérature, etc., etc., quoi.
Voilà, et puis, oui, et puis au cinéma, même au cinéma, donc, le cinéma portugais était produit de la même manière, en fait. Pour pouvoir produire un film, il fallait candidater à un organisme de l'État, et donc c'était le même type de contrôle qui a été fait à partir des années 50.
Revenons un petit peu au ciné-club, parce qu'il y a quelqu'un qui est incontournable, et que c'est peut-être, disons... une des personnes les plus importantes qui a lutté pour la défense du ciné-club au Portugal, c'est Ernest Sousa. Ça, je pense qu'on peut s'attarder un petit peu.
Oui, vraiment, c'était un personnage, c'est un artiste multidisciplinaire, et c'est un des premiers, si ce n'est le premier, à être venu en France pour se renseigner auprès des ciné-clubs français. Et c'est lui, en fait, ensuite, qui a vraiment développé ça au Portugal. C'est lui qui a réalisé un des premiers films en dehors du système de production d'État, dont Roberto, dans les années 60, c'est d'ailleurs le seul film, le seul long métrage qu'il a réalisé. C'est quelqu'un vraiment d'essentiel dans le mouvement. Il a aussi écrit des livres de pédagogie, en fait, pour l'apprentissage du cinéma, un livre sur l'écriture de scénarios, ça n'avait jamais été fait au Portugal, un livre sur la réalisation. Ce sont des petits livres qui sont presque introuvables aujourd'hui, mais qu'il a écrit dans les années 60. Et il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de cinéma au Portugal. Donc les ciné-clubs, c'était vraiment une manière d'apprendre l'histoire du cinéma. Ils réalisaient aussi des courts-métrages. Donc c'était vraiment un lieu d'apprentissage, de partage, d'apprentissage du cinéma comme art, vraiment. Et donc lui, il a été instrumental dans ça. Et d'ailleurs, dans le livre, en fait, il y a le... J'invite les auditeurs à aller consulter le site du CEMES, le centre Ernest Sousa. Et c'est là qu'il y a énormément de photos d'archives qui ont été prêtées pour ce livre. Et c'est une documentation assez extraordinaire et rare et qui n'est pas beaucoup exploitée. Donc voilà, il y a des images, il y a énormément d'images de cette époque-là sur ce site-là, en consultation libre.
Voilà, et d'ailleurs vous avez deux photos d'Ernest Sousa en France, plus concrètement Marie Leroy, dont une à la page 136, alors figure 8, hein, stage national de la Fédération Française des Ciné-Clubs à Marie Leroy, 1956, en bas à droite Ernest Sousa, derrière lui Agnès Varda.
Voilà, exactement, oui, c'est ça, donc il était en France à cette époque-là, et puis il y avait des allers-retours, il est venu plusieurs fois en France. Il y avait vraiment une communication intellectuelle, enfin, il y avait des échanges très, très féconds, et c'est ça qui a fait qu'ensuite au Portugal, ce mouvement s'est développé. Sans ça et sans ce contact extérieur, enfin, comme vous savez, le pays était vraiment très fermé sur lui-même, et sans cette ouverture vers l'extérieur, les changements qui sont venus après, même dans les années 60, n'auraient jamais eu lieu. Après, on a les films du cinéma nouveau qui sont aussi apparus dans les années 60 grâce à cet échange avec la France, puisque il y a beaucoup de jeunes réalisateurs, enfin, qui à l'époque étaient des aspirants réalisateurs, qui ne l'étaient pas encore, mais qui sont partis étudier en France, en Angleterre, voilà, et qui ensuite sont revenus au Portugal et qui ont fait des films un peu plus différents, parce que finalement ils avaient eu accès à une ouverture à laquelle ils n'avaient pas accès au Portugal, ils ont pu voir des films qui n'étaient pas censurés, et forcément ça a changé leur regard sur ce qu'était le cinéma, sur ce qui pouvait être fait.
1960, il s'agit du programme de janvier-février du Ciné Club Images. Alors, il y a l'annonce de la projection de film La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara. Et puis, une dernière page du bulletin, le poème Liberté de Paul Éluard. Alors, l'excuse pour publier ce poème, c'est que bon, s'agissait d'un film français, c'est une façon de contourner la censure et tout.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que parfois, le fait d'écrire, de publier des poèmes dans d'autres langues, ça fermait un petit peu l'accès et ça, du coup la censure laissait passer certaines choses. Et on retrouve comme ça dans les programmes une sorte de bouteille lancée à la mer, en fait, des messages soit dans une autre langue, soit en portugais, mais qui n'ont pas l'air d'être directement liés au cinéma et qui en fait sont une critique soit à la censure, soit au contrôle de l'État, de l'idéologie de l'État, et qui présentent vraiment le cinéma en tant qu'art comme moyen d'accéder à la culture, quoi. Donc c'était ça, on le retrouve assez souvent dans les programmes, des petits poèmes, des références qui ont échappé à la censure. Et en français, comme vous le dites, en fait, vraiment, ils publiaient des poèmes ou des choses dans d'autres langues parce que ben voilà, pas tout le monde parlait français. Donc finalement, c'était pas très grave si ça passait. On retrouve la même chose au cinéma. c'est que les films qui passaient dans une langue étrangère parfois étaient sous-titrés de manière différente, c'est-à-dire que la traduction n'était pas exactement ce qui était dit en anglais ou en français ou dans d'autres langues, et donc la traduction était une manière soit de manipuler le sens, de contourner le sens ou de simplifier, mais voilà, sans, en traduisant de manière pas très fidèle, mais de manière plus appropriée selon les critères de l'État.
Eurydice de Silva, je vous remercie. Je rappelle Cinéma et Dissidence, les ciné-clubs portugais pendant la dictature Salazar, a été publié par les presses universitaires de Paris-Nanterre. Eurydice, merci et à très bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Et voilà, autre livre, Histoire de l'Afrique lusophone et autorisée de Armel Enders et Michel Cahen, édition Chandaigne et Lima. 30 ans depois da primeira edição, impunha-se acrescentar o que se passou há 30 anos esta parte em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e ainda em São Tomé e Príncipe, Michel Cahen.
Alors d'abord, je voudrais rappeler que la première édition de ce livre était parue en 1994 sous la seule signature de Armel Enders. Et il faut se rappeler qu'en 1994, eh bien, Internet, tout ça était très peu développé. Et donc, la bibliographie était tout à fait correcte, mais elle n'avait pas explosé comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, vraiment, même je peux vous dire franchement, en ce qui concerne uniquement l'Afrique de langue officielle portugaise, eh bien moi, qui suis donc un professionnel de cette histoire, je n'arrive pas à lire tout ce qui sort en français, en anglais, en portugais, en espagnol, etc., etc. Donc les choses ont énormément changé. Et à tel point d'ailleurs que les gens qui achèteront notre petit bouquin, c'est un peu plus qu'un que sais-je, mais on a voulu garder un format concis, se rendront compte que il n'y a pas la bibliographie à la fin du livre. On a tout simplement mis un QR code, ce qui nous a permis de faire une bibliographie donc qui est sur le site de l'éditeur Chantagne et Lima, et qui est une bibliographie qui, si on l'avait incluse dans le livre, aurait fait à peu près 40 pages. Parce que ce livre est un manuel, et la bibliographie se veut également l'utilité d'un manuel. Et alors, on a surtout mis, naturellement, on a forcé un peu plus sur les livres en langue française, et on a forcé également beaucoup plus sur les livres que sur les articles. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, un article, c'est beaucoup plus facile à trouver, et notamment en libre accès, à télécharger qu'un livre. Et puis un livre, c'est, même si on peut le télécharger, parfois c'est vraiment pas drôle de lire un livre entier à l'écran. Donc on l'a actualisé, mais actualisé, ça ne veut pas dire simplement qu'on a mis des références bibliographiques sur les 30 années suivantes. Ça, on l'a fait, bien sûr, parce qu'il s'est passé des choses considérables pendant ces 30 années, mais on a aussi des choses très importantes qui ont été publiées depuis sur le 16e siècle, le 17e siècle, etc. Donc on a vraiment fait un gros effort d'actualisation d'une bibliographie à destination d'un public plutôt de langue française.
Commençons par les changements. Les conditions matérielles d'abord.
Alors, les conditions matérielles, comme je disais tout à l'heure, c'est que, vous le voulez dire, les conditions matérielles de faire de la recherche pour écrire un tel livre ?
Oui, tout à fait, oui.
Ah oui, d'accord. Eh bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand Armel Enders, en 1993-1994, faisait ses recherches pour écrire ce petit livre, eh bien, elle allait en bibliothèque, elle faisait parfois des prêts interbibliothèques pour faire venir des livres qu'il n'y avait pas à Paris, elle habitait Paris, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, on a, moi, pour actualiser la bibliographie, je n'ai pas été une seule fois dans une bibliothèque, j'ai tout fait à partir de mon ordinateur, sans parler du fait naturellement que comme c'est mon métier d'être historien des pays de langue des pays africains de langue officielle portugaise, naturellement je connaissais déjà ces livres, mais pour mettre les références exactes, etc. Aujourd'hui, on n'écrit plus un livre de la même manière qu'il y a 30 ans. Ça, c'est sûr. Ça nous a permis d'être plus efficace et d'avoir de la bibliographie et exactement sur le sujet, parce que on va en parler bien sûr tout de suite, mais les pays d'Afrique de langue officielle portugaise aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans.
Il y a quelque chose qui a changé également, c'est le regard porté sur l'impérialisme colonial portugais, c'est là dont on parle, et en général sur l'impérialisme, disons, au niveau international. Ça, c'est un regard, ça a complètement changé, on dirait quoi, dans les années 2010?
qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, pendant, disons, 10-15 ans de 1975, l'année des indépendances, à 1985-1990, on pouvait dire que tout ce qui n'allait pas dans les pays africains de langue officielle portugaise, les PALOP, eh bien, c'était de la faute de l'impérialisme portugais, l'état dans lequel il avait laissé les colonies, ou bien l'agression sud-africaine contre l'Angola et le Mozambique, etc. C'était toujours de la faute de l'impérialisme en général, comme vous venez de dire. Aujourd'hui, naturellement, l'impérialisme existe toujours, mais d'un point de vue historien, c'est mon point de vue, il y a une historicité interne des problèmes, et même si naturellement l'héritage colonial continue à peser, mais aujourd'hui, les problèmes de ces pays-là sont des problèmes de pays d'Afrique ordinaire, ce sont des problèmes de pays de la périphérie du capitalisme, et ce n'est plus la faute entre guillemets de l'impérialisme. Aujourd'hui, la faute entre guillemets de l'impérialisme, faudrait plutôt regarder du côté de la Palestine ou d'Israël, voyez, mais pas du côté de l'Angola ou du Mozambique. Le regard a changé, mais c'est aussi que l'histoire a changé. Bon, par exemple, en Angola, aussi bien qu'au Mozambique, je parle même pas de 1975, donc l'année des indépendances, mais je parle de 2002 pour l'Angola, 1992 pour le Mozambique. Plus de la moitié des Angolais et nettement plus de la moitié des Mozambicains sont nés après la fin des guerres civiles. Donc c'est toute une nouvelle génération politique de gens. Et cela montre que les anciennes fidélités, les anciennes légitimités des partis qui ont conquis l'indépendance, aujourd'hui ne sont plus acquises comme si c'était évident. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux partis qui montent. L'opposition elle-même s'est considérablement transformée, que ce soit en Angola ou au Mozambique. Donc, de toute manière, on est rentré il y a 5-6 ans, on est rentré dans ces pays-là, dans une nouvelle période politique.
Le Portugal, on peut dire qu'elle a été rattrapée par son passé, puisque de plus en plus, il y a des demandes de décolonisation de l'espace public. Au Portugal, il y a même une statue, etc., qui a été érigée. Il y a les Portugais d'origine africaine. Donc, le Portugal, il est confronté avec une situation que, bon, il a fallu attendre, je reviens aux années 2010, parce que c'est à partir de là que finalement le passé a rattrapé de certaine façon le Portugal.
Oui, vous avez tout à fait raison de dire cela. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, moi je m'en souviens très bien, les premières années où j'allais au Portugal, en 77 ou en 78, le passé colonial, c'était pas quelque chose qu'on devait étudier, c'était quelque chose qu'on devait oublier. Fascisme nunca mais, ok, le fascisme plus jamais, ça c'était réglé, mais le vieux savoir colonial portugais, qui était colonial bien sûr, mais qui avait une vraie connaissance de l'Afrique, était en danger de mort, et il n'y avait pas encore un nouveau savoir académique, universitaire, qui émergeait. Ça s'est fait. Maintenant, les centres d'études africaines, au Portugal, sont des centres de niveau de recherche internationaux, sont largement aussi bons que ceux de la France, ou ceux des États-Unis, ou ceux de l'Angleterre, même si c'est un pays plus petit et qu'il y en a moins, mais le niveau est très bon. Et ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est que le mouvement qu'on appelle décolonial a pris son essor au Portugal, mais c'est un mouvement qui existe partout. C'est-à-dire en France aussi, moi j'habite à Bordeaux. À Bordeaux, il y a des revendications pour changer les noms de certaines rues. Il y a un guide du Bordeaux colonial qui montre toutes les choses dans lesquelles la ville de Bordeaux ou des gens de Bordeaux ont été impliqués dans la colonisation, etc. etc. Donc c'est vrai que ce sont souvent, vous l'avez dit, vous avez raison, ce sont souvent des Portugais d'origine africaine, ou même des Africains mais résidents de longue date au Portugal, qui se mobilisent pour que, en ce moment, comme vous le savez bien, il y a une grande polémique sur savoir s'il ne faudrait pas abattre le pavillon des découvertes. Hein. Vous savez, à Belenggue, c'est évidemment un monument parfaitement colonial, qui au départ d'ailleurs avait été érigé en plâtre pour une exposition universelle, qui n'était pas pour durer, et qui finalement a été reconstruit en pierre sous Salazar et qui aujourd'hui dure. C'est une question qui est très complexe. Moi je sais que mes sympathies politiques vont pour l'anticolonialisme, pour l'anti-impérialisme, etc. etc. mais des choses font partie de l'histoire. Alors, pour certaines statues qu'on peut déplacer, c'est très bien. Au lieu de les mettre sur la place publique, on peut les mettre dans un musée. Comme ils ont fait en Afrique du Sud avec l'apartheid. Je me rappelle quand j'ai visité le musée de l'apartheid à Johannesburg, à l'entrée du musée, il y a une grande déclaration qui indique « L'apartheid a enfin trouvé sa place, au musée ». Point d'exclamation. Bon, on peut faire pareil pour certaines statues. Le pavillon des découvertes, par exemple, c'est un monument énorme, ou on le détruit, ou on le laisse en place. Ça fait partie de l'histoire. Moi, je trouve qu'on pourrait régler la question en mettant des panneaux pédagogiques d'orientation plutôt que de le taguer de temps en temps. Mais quelque part, c'est tout à fait positif que cette jeune génération de Portugais d'origine africaine se mobilise, parce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire et qui ne se font toujours pas. Et puis il y a aussi la question, alors ça c'est dans tous les pays, le Portugal, finalement le Portugal est devenu un pays tout à fait ordinaire. Il y a toutes les œuvres d'art dans les musées qui viennent d'Afrique, elles ont été prises comment en Afrique? Donc il y a aussi cette question de la restitution de certaines œuvres d'art en Afrique. Le Portugal se retrouve avec exactement les mêmes problèmes, mais ce qui est nouveau, le même problème que d'autres pays, mais ce qui est nouveau au Portugal, c'est qu'aujourd'hui, il y a une opinion publique, notamment faite de Portugais d'origine africaine, mais pas seulement, des jeunes Portugais qui n'ont pas du tout connu la question coloniale et qui trouveraient tout à fait normal que l'on rende certaines œuvres d'art à l'Afrique.
Alors, monsieur Lacan, une dernière question, bon, c'est en forme d'interrogation, je vais faire l'avocat du diable. Quand on parle de l'Afrique lusophone, réalité ou tout simplement un mythe, la seule chose qui relie finalement les pays africains d'expression lusophone et le Portugal, c'est la langue.
Alors, vous voyez, moi, en 10 ans, j'ai complètement changé d'opinion. Parce que pendant longtemps, je pourfendais le concept d'Afrique lusophone. Je disais que c'était néocolonial, que ça correspondait pas à la réalité. Il faut dire que lors du premier recensement mozambicain post-indépendance, celui de 1980, 1,23% des Mozambicains avaient le portugais comme langue maternelle. Comment parler d'Afrique lusophone quand on a des situations pareilles? C'était déjà plus fort en Angola. Au Cap-Vert, personne ne parle portugais, tout le monde parle créole. En Guinée-Bissau, le créole était en train de s'étendre, mais ce n'était pas le portugais. Il n'y avait que à Saint-Thomé où le portugais commençait déjà à se répandre. Et puis, il se passe quelque chose, notamment en Angola et au Mozambique, mais aussi en Guinée-Bissau et à Saint-Thomé. Au Cap-Vert, c'est différent. Qui ne se passe pas dans les autres pays africains, c'est que la seule langue qui est en expansion en Angola et au Mozambique, et à Saint-Thomé, c'est le portugais. Vous prenez la Tanzanie, vous prenez le Kenya, eh bien c'est la langue kiswahili qui s'étend. Certes, elle s'étend au détriment d'autres langues africaines, mais au minimum, c'est une langue africaine. Vous prenez le cas de la zone de l'ouest des Congos, c'est la langue lingala, qui est une espèce de langue métisse entre différentes langues bantoues. Elle prend la place d'autres langues, mais c'est une langue africaine. Bon, en Angola, au Mozambique, à Santo Domingo, c'est le portugais qui l'emporte, qui croît de plus en plus. Et moi, j'ai récemment, lors d'un congrès sur les langues nationales à Évora, en juin dernier, j'ai publiquement dit que le 21e siècle verrait la fin des langues africaines en Afrique de langue officielle portugaise. Et donc, au cours de ce siècle, le 21e siècle, cela fait sens maintenant de parler d'Afrique lusophone, un peu comme le Brésil est lusophone. Voilà. Donc j'ai vraiment changé d'opinion, c'est pas que j'ai changé d'analyse, c'est que les statistiques ont changé, et aujourd'hui, alors bien sûr les gens sont multilingues, on peut parler portugais et parler xixangan ou parler xironga, bien sûr, mais le statut social des langues est tout à fait différent. Les enfants parleront encore une langue africaine, parce qu'ils voient encore leurs grands-parents qui parlent langues africaines, mais déjà leurs parents ne parlent que portugais, et puis ils savent bien qu'à l'école, entre copains, ils ne parlent que portugais. Vous savez, il suffit de 90 années pour faire disparaître une langue. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique ex-coloniale portugaise est en train de devenir vraiment lusophone, et que ça sera un point commun, bon, qui n'est pas suffisant pour tous les domaines. Regardez par exemple, le Sénégal est de langue officielle française, Madagascar est de langue officielle française. C'est pas pour autant que ce sont des pays qui sont très proches sur le plan politique ou économique. Ça ne suffira pas. Mais c'est sûr que ça sera un facteur assez important, plus important que par le passé, même si le Portugal, dans son idéologie de la lusophonie, insistait beaucoup avec la fameuse phrase de Fernando Pessoa, ma patrie est la langue portugaise, qui a été complètement sortie de son contexte, hein, on lui fait dire tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que dans 10, 20, 30 ans, et en tout cas avant la fin du siècle, il n'y aura plus de langues africaines dans les pays africains de langue officielle portugaise.
Je vous remercie, Michel Cayenne, qui a co-rédigé cette histoire de l'Afrique lusophone avec Armel Enders, Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, Saint-Thomé et Príncipe, aux éditions Chandagne et Lima. Monsieur Cayenne, je vous remercie.
De rien. Merci, au revoir.
Estamos hoje na reta final da passagem de nível deste domingo 31 de agosto. Relembro a redifusão da noite, terça para quarta-feira. E, sem esquecer, o podcast. Ficamos em África e vamos agora até São Tomé e Príncipe, a propósito do livro Les Poissons viennent de la forêt, de Jean-Yves Lude, ilustrações de Alain Corbel, nas edições Belin. Trata-se de um conto à volta do passado de um povo de São Tomé, chamam-lhes angolares, e é uma história que tem séculos.
Oh là, oui. Oui, j'avoue que je suis très ému de, quand je parle de ce livre sur les, le peuple des Angolares. Alors, situons, ils habitent au sud de l'île de Saint-Thomé. Saint-Thomé, de nombreux auditeurs ne savent pas où c'est. Saint-Thomé, c'est l'île du milieu du monde. C'est là où le méridien de Greenwich et l'équateur se croisent. Nous sommes en plein dans l'équateur, le climat équatorial. Ce sont des îles luxuriantes, volcaniques et luxuriantes, avec des arbres, des ocas, des arbres de 50 mètres de haut. Et là, l'histoire portugaise commence à la fin du XVe siècle. La couronne portugaise a découvert ces îles, veut les planter à la fois d'humains et puis de végétaux, veut en faire une colonie de peuplement, mais personne ne veut aller là. Personne ne veut aller là. Alors, il n'y a que les mauvais garçons que l'on envoie de force dans les caravelles. Pas de femmes, très peu. On dit même que dans l'histoire du Portugal, les nouveaux chrétiens, les juifs passés d'Espagne au Portugal, eh bien, qui se sont convertis, il y a cette fameuse enfant des 2000 enfants juifs qui ont été pris et envoyés dans les galères, enfin dans les galères, dans les caravelles sur Saint-Thomé. L'histoire du peuplement commence dans les années 1495 avec des blancs, des noirs arrachés à l'Afrique, ces enfants juifs. Tout le monde avait peur à cette époque-là. On disait, mais sur l'équateur, tous les enfants qui vont naître sont brûlés. En fait, voilà. Il faut bien savoir que c'est la seule fois dans l'histoire du Portugal et même dans l'histoire de la colonisation européenne que la couronne portugaise va, en 1510, va libérer, va donner, va alforir, la franchir les femmes noires avec qui ils auront eu des enfants pour bon service rendu à l'État. Pourquoi ? Parce que les Portugais voulaient planter du blé, de la vigne et des oliviers en plein équateur. Ça n'a pas marché et ce sont les esclaves noirs qui ont réussi à leur faire penser non, il faut des tubercules, il faut des fruits. Ils ont appris à cultiver la plantation, ils ont appris à soigner les enfants, ils savaient soigner sur l'équateur et là, le Portugal a rendu hommage et a libéré les premières femmes noires et leurs enfants.
Dans ce livre, on en fait l'histoire, c'est vrai, c'est quelque chose de merveilleux, l'histoire des peuples, parce que souvent l'histoire qu'on nous apprenne, c'est pas la vraie. Mais parlons justement de ces angolages. Ils étaient ce qu'on appelait les esclaves marrons.
Oui, mais c'était important que je fasse cette annonce-là, parce que les premiers affranchis vont être appelés foros, affranchis. Et ils vont se considérer comme les filhos da terra, les fils de la terre. Et jusqu'à ce jour, ces premiers affranchis et leurs descendants font partie quand même des populations, des familles régnantes, j'allais dire, possédantes à Saint-Thomé. Mais en 1520, quoi que dise l'histoire coloniale du Portugal, qui ne s'est pas toujours très bien passée, non, c'était pas rose dans les plantations, des esclaves ont eu le courage, dès 1520, de fuir dans la forêt équatoriale de Saint-Thomé. Et Dieu sait, en 1520, il fallait prendre son courage à deux mains pour aller s'enfoncer dans cette forêt-là. C'était retourner à l'âge de la pierre. Des hommes et quelques femmes ont eu le courage de s'enfoncer. Ils vont devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple des Angolares. Bien sûr, ils n'étaient pas nommés comme ça à ce moment-là. Et ce qui est important à savoir, et ce que l'on ne sait pas souvent, tous les noirs fugitifs, que ça soit aux Antilles, que ça soit au Brésil, ont formé au Brésil ce qu'on appelle des quilombos. Ce sont des républiques et des royaumes éphémères. Ils ont toujours été rattrapés par le pouvoir en place. Il n'y a qu'un exemple. C'est le peuple des Angolares. C'est le seul exemple de fugitifs qui se sont enfoncés dans la forêt vers 1520 et leurs descendants n'en sont sortis que le jour de l'abolition en 1877. J'articule bien pour qu'on mesure le temps de cette lutte terrible pour la liberté. Car il ne faut pas croire qu'ils se sont enfoncés sans faire des escarmouches, des razzias, parce qu'il leur fallait des femmes, il leur fallait des armes, des outils. Et à la fin du XVIe siècle, le roi Amador, Rei Amador, a pris le pouvoir de toute l'île. Ça a duré un an avant que le pouvoir portugais le capture et le pende. Mais pendant un an, il y a eu un pouvoir angolarès sur l'île de Saint-Thomé. Voilà, c'est ce peuple-là, les Angolares. Ils méritent vraiment un hommage, et eux aussi voudraient bien qu'on les appelle filhos da terra.
Alors, Jean-Yves, revenons un petit peu, donc carrément, au livre « Les poissons viennent de la forêt ». C'est un conte, c'est un livre pour les enfants et pour les adolescents, je crois.
Oh, mais c'est, adultes,
c'est, voilà, les adultes aussi, bon, la preuve. C'est-à-dire, on est entraîné, c'est une, un genre de quête, finalement, c'est quoi? C'est, vous avez essayé de restituer un petit peu la mémoire de ce peuple, d'un certain nombre de croyances, une façon qu'ils ont de vivre et tout, parce que vous avez passé du temps à Saint-Thomé, justement, pour écrire ce conte, parce que c'est un conte, finalement.
Alors, initialement, moi, j'écris toujours pour les adultes d'abord, et quand je pense connaître un peu la société, je me permets d'écrire pour les enfants. Alors, oui, il y a eu le livre Coup de théâtre à Saint-Thomé chez Actes Sud, qui a eu le prix RFI, et après, je me suis dit, ah, il manque quelque chose. Le chapitre sur les Angolares, ce n'est pas suffisant. Ce peuple est trop important. Alors, ni une ni deux, ma femme Viviane et moi, on voyage toujours en couple, on est reparti à Saint-Thomé pour approcher les Angolares. Par chance, parmi les Angolares, il y a un homme qui s'appelle Neso. Neso a fait ses études à Cuba, il est peintre, il est musicien, c'est un homme d'ouverture. Il avait entendu un reportage qu'on avait fait sur notre travail sur RTP Africa, et il a dit « Oh, j'aime bien votre travail ». Donc, je suis d'accord avec votre projet d'écrire un roman sur mon peuple, et je vais vous aider. Et il appelait aussitôt son père, qui est le meilleur pêcheur de tout le peuple des Angolares. Et là, on s'est attablé, et nous ont parlé pendant des après-midi de la tradition des Angolares que le peuple a développée pendant ces 3 siècles et demi de clandestinité. Alors, bien sûr, moi, mon travail, c'est de valoriser ceux qui ont été cachés par la façade de l'histoire officielle. Et Dieu sait si les Angolares ont été camouflés. Tout ce que je dis dans Les poissons viennent de la forêt, oui, j'ai inventé la fiction, mais j'ai soumis le scénario à mon ami Neso et à son père. Oui, j'ai pris tout ce qu'ils m'ont donné, j'en ai fait un scénario de fiction, mais tout ce qui est dit dans Les poissons viennent de la forêt, c'est vraiment la restitution, d'une part, de la culture de ce peuple. Moi, c'est ça mon travail, valoriser, donner de la valeur, dar valor, donner de la valeur à un peuple qui a été méconnu et souvent méprisé, hein.
Alors, le personnage principal du livre s'appelle Keta. Oui. Alors, Keta, au début, bon, il est sur les nuages, parce qu'il est mort, ça fait plusieurs siècles, il a décidé de se réincarner. Mais finalement, à travers ça, ce n'était pas le genre de parabole, finalement, parce que la vie, c'est un éternel recommencement, et on ne peut jamais vivre son présent sans comprendre son passé.
Alors oui, bien sûr, mais là, je suis parti d'une croyance des Angolares dans la réincarnation. Ça, c'est eux qui m'ont donné, hein. Ils m'ont dit, nous ne pensons pas être sur Terre une seule fois. Nous venons d'ailleurs. Et ce sont eux qui m'ont parlé de ce rituel que l'on accomplit quand un enfant naît avec un handicap. Chez les Angolares, quand il y a un handicap, soit on parle pas, soit on marche pas, un enfant marche pas. Et là, il y a souvent une femme de la famille qui dit « Oh, cet enfant n'a pas payé sa dette à sa famille outre-tombe, dans l'au-delà. » Et c'est pour ça qu'il a cet handicap. Alors, on l'emmène chez le guérisseur qui fait un rite de divination par des feuilles empilées. On m'en a parlé, je n'ai pas eu le droit de le voir. Bien sûr, il y a des secrets quand même. Et là, on m'a expliqué comment la divination se faisait et quel est le diagnostic. Et après, comment on fait réparation, où le guérisseur fait un joli bateau dans lequel, en l'occurrence, dans Les poissons viennent de la forêt, mon héros Keta, qui va se réincarner, a pas payé une dette vis-à-vis de sa femme. Et donc, c'est sa femme qui lui en veut et qui a fait qu'il naît handicapé. Alors j'ai restitué cette coutume qui est très profondément ancrée parmi le peuple des Angolares. Donc c'est vrai, la première partie de Des poissons viennent de la forêt, mon héros est mort. Et le livre commence par « Moi Keta, je suis mort. Et depuis que je suis mort, je suis devenu bavard. » Et oui, j'avais besoin de ce héros qui raconte la situation de Saint-Thomé, la situation du peuple des Angolares, qui connaît en France l'histoire des Angolares personne. Donc j'ai choisi ce moyen de faire parler un mort qui, depuis les nuages, effectivement, regarde les humains. Pourquoi ? Parce que en Afrique et à Saint-Thomé, les humains et les vivants et les morts vivent ensemble. On ne peut pas imaginer la communauté séparée. Donc, chaque fois qu'il y a une fête à Saint-Thomé, le premier acte, soit le chiloli, la pièce de théâtre, soit le danse Congo, et là, c'est l'histoire du danse Congo, les vivants vont inviter les morts au cimetière le matin à l'aube, déposer des cigarettes et de la guardiente pour dire aux morts, venez participer à la joie et à notre vitalité. Donc, je suis parti de là. Keta a décidé de revenir sur Terre, donc il va profiter de la fête pour repérer parmi les joueurs un père intéressant et une mère très aimable. Donc, toute cette première partie me permet de situer la société angolaire, le danse au Congo qui est prodigieux, une tragédie prodigieuse avec des échassiers, des sorciers, des bobos, des bouffons. Toute l'image de la société coloniale est satirisée par le danse au Congo, c'est fantastique. Et la deuxième partie, Keta est né. Donc il ne se rappelle même plus de son prénom. Et c'est là que je fais intervenir la tradition. Il naît handicapé. Le rite de guérison existe. Et
là, je pense qu'il faut peut-être, on va pas raconter tout le livre, parce que bon, c'est ça que c'est intéressant justement aussi, on est dans un autre monde quelque part, mais en même temps, il y a plein de choses qui nous touchent, on va pas lire la fin, loin de là, parce que justement c'est un conte, et les contes ça nous fait rêver. Jean-Yves Loude, en portugais maintenant, c'est un petit peu le résumé de ces, les poissons viennent de la forêt, os peixes vêm da floresta. En português, um resumo.
É fácil de perceber o título do livro, porque para ser um bom pescador, preciso de ter um bom barco. É um bom barco vem de um bom árvore. É um bom árvore, é só o mestre carpinteiro que sabe é a linguagem da floresta, que sabe escolher o próprio genuíno árvore que pode pedir perdão ao árvore que vai cair. É por isso que o livro se chama O Peixe Vem da Floresta. E o povo dos angolares não pode viver sem a floresta e o mar. A história dela é um conjunto de dois elementos. Mas os meus heróis vão ser dos dois lados da cultura dos angolares. O pai é o mestre pescador. Ele tem 6 filhas. E reza o seu de ter um filho um dia na sua vida, na vida dele. E, felizmente, um dia um filho vem, nasce. Mas, infelizmente, esse filho gosta da floresta. Eu preciso do livro inteiro, do romance, para arranjar o encontro entre o pai é o filho.
Jean-Yves Loude, a propósito do livro Les Poissons viennent de la forêt, texto de Jean-Yves Loude, ilustrações de Alain Corbel, nas edições Belin, um conto que fala igualmente da história africana e da colonização feita pelos portugueses. E ficamos ainda em África, com quem? Com o grande Bonga, e o título não garante a pronúncia, evidentemente, Monaki G. Xissa.
Mona Monier, ya wesa mona mona mwene ngangumba aluke nungola fwa ngamu bingi kese mwene wando kalambe miaba eme ngondo jamie mona mona mwene ya wesa mona mona mwene ngangumba mona mona mwene soya wesa mona mona mwene kalunga ngumba aluke nungola fwa ngamu bingi kiasi mwene wando kala benyaba eme ngondo yane mona mona mwene soya wesa mona mona mwene kalunga ngumba Sambi wangi panamona Kamu valele Mwenye wando kala benyaba Eme ngongo yange Muna muna mwenye Ngangumba Muna muna mwenye Weyaweza Muna muna mwenye Weyaweza Muna muna mwenye Alungangumba Zambi wangi panamona Ngamu falele Mwanyeze wando kalabe nyaba Eme ngondo yamye mwenye Muna muna mwenye Weyaweza Muna muna mwenye Kalungangumba Muna muna mwenye Weyaweza Muna muna mwenye Kalungangumba Aluke nungola fwa Ngamu bingi kiaze Mwenye wando kalabe nyaba Eme ngondo yange Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Kalungangumba Zambi wangi panamona Ngamu valele Mwenye wando kalabe nyaba Eme ngondo yange Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Sambi wangi panamona Kamu falele Mwanyeze wando kalabe nyaba Eme ngondo yange Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba
Bonga é uma hora praticamente dedicada à África dita lusófona. E falamos dos incêndios igualmente durante esta emissão do domingo dia 31 de agosto e a propósito de incêndios, uma residente da Maison de Portugal, André de Gouveia, na cidade internacional universitária de Paris, Luísa da Costa Gravelos, pois bem, vai apresentar amanhã, a partir das 19 horas, uma exposição fotográfica que é consagrada inteiramente aos incêndios que durante este verão de 2025 destruíram inúmeras zonas da região de Trás-os-Montes em Portugal. Amanhã a partir das 19 horas com uma reportagem fotográfica de Luísa da Costa Gravelos. Um grande obrigado ao Manuel Xande e eu conto estar aqui no próximo domingo, dia 7 de setembro. Bem-ajam.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.